white and back to red. From black to white to white and back to red. From black to white to white and back to red. From black to white to white and back to red. Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur La Dernière Piste pour cette nouvelle saison. Dans cette émission, il va être question de musique, en particulier de pop et de rock indé du XXe siècle à aujourd'hui, mais aussi de cinéma, comme ce sera le cas dans ce premier épisode, mais aussi parfois d'histoire ou de littérature et plein d'autres choses encore. L'idée étant d'explorer des pistes variées, de chercher la poésie et l'imaginaire où ils se trouvent, quel que soit le médium. Et pour cet épisode, je serai seul en studio, mais je souhaite tout au long de l'année réunir des chroniqueurs de temps en temps, et puis tester des formules différentes de l'émission, avec ou sans interview, avec ou sans reportage, mais aussi, pourquoi pas, de la fiction. Bref, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre, et avec elle, plein de possibilités. Et pour l'heure, il est temps de passer donc à la première partie de cette émission, avec mon choix musical pour inaugurer cette rentrée. On se retrouve donc juste après Fontaines D.C. avec Bug.
Cause I want to, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed before you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah.
Fontaines D.C. avec Bug, donc c'est le nouvel album du groupe Fontaines D.C., un groupe dont j'ai déjà parlé dans une précédente émission, un précédent épisode de cette émission, et pour cause, c'est un de mes groupes actuels préférés. Formation originaire d'Irlande, qui a été créée il y a à peu près 5 ans, et qui a déjà sorti 4 albums, puisque Romance, c'est leur 4e album, qui est donc sorti en cette rentrée au mois dernier, au mois de septembre. Un album qui, à l'image de tout ce qu'ils ont sorti jusqu'à présent, est pour moi un exemple assez intéressant de comment une formation actuelle peut citer des groupes et des genres, des courants qui ne sont pas de leur génération, de leur époque, mais tout en les ayant totalement absolument assimilés, voilà. Et pour moi, cet album marque un cap dans la formation, dans le parcours de cette formation, et pour moi risque de les amener à un nouveau stade, qu'ils arrivent à toucher un public un petit peu plus large que celui qu'ils atteignent pour le moment. C'est un album plus varié musicalement, avec un son à la fois moins monotone, mais aussi où on sent une ambition à la fois liée à l'envie de ne pas s'endormir, de ne pas se reposer sur ses lauriers, et une volonté de passer à un stade supérieur, ce que j'essaie de dire juste avant. En plus de leur talent d'écriture, ils se sont donné les moyens d'y parvenir en changeant de label. Ils étaient chez Partisan, et maintenant ils sont sur un label, le label XL, en abandonnant aussi leur producteur historique pour le producteur James Ford, qui a travaillé avec Depeche Mode, les Arctic Monkeys et d'autres, et en changeant aussi un peu de look. Et le pari est assez réussi, en tout cas pour moi, car le groupe garde une identité très forte, et malgré des titres plus pop, je trouve qu'on ne sent pas un calcul. Ça pourrait être justement quelque chose qu'on a pu reprocher à certains groupes indépendants par le passé, d'essayer d'avoir un côté un peu plus accessible, mais dans ce sens-là, d'être un peu plus commercial aussi. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un album aussi qui semble les avoir libérés du poids d'une routine qui aurait pu s'installer petit à petit. Je tiens aussi à marquer que la différence avec l'album précédent, qui s'appelait Skinty Fia, qui était un disque aux ambiances beaucoup plus sombres, beaucoup plus lourdes, à l'image de sa pochette et de son titre, qui en irlandais signifie la damnation du cerf, et qui renvoyait à des légendes propres au pays d'origine de cette formation, l'Irlande donc. Alors pour le plaisir, on s'écoute un autre titre pop de l'album, qui est mon titre préféré personnellement, une chanson qui m'a touché dès que je l'ai entendu, qui m'a touché en plein cœur, et que j'écoute en boucle depuis plus d'un mois. Un morceau dont le clip d'ailleurs ne fait que renforcer l'émotion que je ressens en entendant cette chanson, qui est un mélange de douceur et d'amertume, de nostalgie et d'espoir, et dans le clip on y voit les membres du groupe quand ils étaient enfants, avec cette image vidéo typique de la fin des années 90 et du début des années 2000. Un sentiment aussi que c'est une chanson qui existe depuis des années, des décennies, avec ce côté, un côté très intemporel, un morceau qui pour moi est déjà culte. Donc on écoute ça tout de suite, c'est Fontaines D.C. avec le morceau Favorite.
Change.
Oysters in My Pocket de Royal Otis et juste avant Fontaines D.C. avec Ferret. Voilà, donc c'était donc à la fois donc le morceau, je disais, issu donc du dernier album de Fontaines D.C. Je rappelle son titre, donc Romance, c'est sorti au mois de septembre, donc je vous conseille fortement d'aller l'écouter plus en profondeur et d'écouter également le reste des albums de ce groupe Fontaines D.C. aussi d'aller les voir en concert si jamais vous en avez l'occasion, parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis donc le deuxième morceau qu'on a écouté, Oysters in My Pocket, c'est un duo australien donc, qui est formé de Royal Madel et de Otis Pavlovich, qui forment donc tous deux avec leur prénom respectif donc le nom de ce groupe, Royal Otis. Une chanson que je trouvais bien de passer donc juste après le morceau Favorite de Fontaines D.C. parce que je trouve que on a aussi cette idée, il y a dans les deux morceaux cette idée d'une forme de légèreté pop et d'excellence pop que j'aime beaucoup. Et c'est aussi Oysters in My Pocket, il se trouve que c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté cet été et qui me rappelle cette saison-là maintenant à chaque fois que je l'écoute. C'est une chanson qui m'évoque aussi une forme de liberté, des souvenirs d'enfance, des images liées à cet âge-là et à l'été, donc l'enfance étant elle-même très liée à cette saison, qui est donc la saison, notamment la saison des grandes vacances. Alors pour la suite de l'émission, je vous propose, au moment où l'automne commence à s'installer petit à petit à Montpellier, que les jours se raccourcissent et qu'on se rapproche petit à petit du passage à l'heure d'hiver, je vous propose de revenir quelques semaines en arrière, en plein été, à travers un film qui se passe justement en plein été, mais un été empoisonné où plane l'ombre de la mort malgré la jeunesse de ses personnages principaux. C'est un film qui est sorti en salle de cinéma il y a quelques temps, mais qui n'a malheureusement pas eu le succès qu'il aurait mérité, qui s'appelle No Ceremony, dont j'avais déjà parlé une première fois dans cette émission, mais j'aimerais donc revenir sur ce film, et je vous propose pour en parler, sans plus attendre, d'écouter le réalisateur du film, Simon Rhyt, à qui j'ai d'abord demandé de me raconter son parcours.
J'ai commencé à faire des films assez jeunes, à filmer des lieux et des personnes que j'aime, et il se trouve, vu que j'habitais ici, j'ai beaucoup filmé cette région, quoi, autour de Montpellier, et voilà, c'est des endroits que j'aime beaucoup, et c'est une région que j'ai beaucoup filmée, mais il y a aussi ce cinéma, du coup j'ai commencé à aller au cinéma là-bas, aller voir des films, et surtout aller au cinéma tout seul, parce que pour moi, quand j'étais plus jeune, bah, comme tout le monde, le cinéma est une expérience collective, on y va avec les copains, les parents, et moi j'ai commencé en fait à aller voir des films tout seul là-bas, et à me construire un peu ma propre cinéphilie, et du coup pour moi c'est ça qui était très touchant, c'était de montrer le film dans ce cinéma où j'ai découvert plein d'œuvres qui m'ont marqué aussi. Et du coup, voilà, d'être là pour montrer le film ici, c'est ça qui me touche de revenir ici, parce qu'en fait, c'est la première fois aussi que je fais un film vraiment qui n'est pas tourné du tout dans cette région.
J'aurais une question par rapport à ça plus tard, mais justement, est-ce que tu aurais des exemples de films qui t'auraient particulièrement marqué, que tu as découvert dans ce cinéma ?
Il y en a plusieurs, je pense par exemple à Trois Séances. J'avais vu, quand j'étais petit, Winnipeg, mon amour, qui est un film de Guy Madin. Et ça, c'était assez dingue. C'est un cinéaste qui expérimente beaucoup de choses et qui fait des trucs sur la matière qui m'avait vachement inspiré. J'avais aussi vu Tree of Life.
Ah oui, de Malick.
Ouais, j'avais adoré. Pour moi, j'avais quelque chose de nouveau que j'avais jamais vu au cinéma. Et enfin, j'ai fait une séance assez étrange au Diagonale un jour où j'arrive. Je sortais de cours et je me dépêche pour aller voir un film là-bas qui est Kaboom de Greg Araki.
Ah oui, oui.
Et j'avais extrêmement envie de le voir et du coup j'arrive à l'accueil du cinéma et il me dit le film a déjà commencé. Et je cours pour rentrer dans la salle et en fait il n'y avait personne dans la salle. Et le film tournait tout seul. Il n'y avait pas de public. Et du coup je me suis assis et j'ai regardé le film tout seul dans la salle qui avait déjà un petit peu commencé. Et ça c'était une expérience que j'avais adorée. Ouais.
C'est assez particulier les séances où on est tout seul dans la salle, ça m'est arrivé quelques fois aussi. Et justement, tu citais Greg Araki parmi tes expériences, tes influences, pardon, de cinéaste quand quelqu'un t'a posé la question lors de l'avant-première la dernière fois. Il me semblait qu'il y avait aussi Gus Van Sant, Larry Clark, tout un certain pan du cinéma américain, cinéma indépendant américain, du coup. Personnellement, moi, j'ai été beaucoup marqué par Mysterious Skin, que j'ai vu un peu trop jeune, je trouve, mais qui, du coup, j'ai un rapport un peu... Enfin, voilà, c'est un film qui me fascine depuis assez longtemps. Mais tu as cité aussi des cinéastes, enfin, un certain cinéma français, plutôt naturaliste, Alain Guiraudy, Abdelatif Kechiche. Donc voilà, je trouvais ça intéressant par rapport à ton film qui, justement, mélange plein d'influences assez différentes et... et des genres différents. Donc si tu as quelque chose à... Je n'ai pas spécialement de questions par rapport à ça, mais si tu veux revenir peut-être sur certaines de ces influences.
Je pense que ce qui m'a beaucoup plu chez Greg Araki ou chez Gus Van Sant et même Larry Clark, c'est la manière qu'ils ont eu un peu de créer des figures éternelles de la jeunesse, c'est-à-dire de créer des personnages d'adolescents qui incarnaient eux-mêmes entièrement toute l'adolescence, quoi. Et il y avait quelque chose de créer toujours avec ces visages, en fait. C'est des cinéastes qui ont beaucoup filmé des visages d'adolescents qui m'ont beaucoup marqué, et je pense qu'ils ont marqué toute une génération qui sont venus se graver en nous comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai cherché dans mon casting, aussi dans la manière de filmer ces jeunes-là, de chercher à les magnifier au maximum et de filmer leur beauté comme ça, de révéler quelque chose par le cinéma de ce qu'ils sont. Et en même temps, il y a des cinéastes comme Kechiche qui va chercher, qui essaye dans son cinéma par-dessus tout d'aller chercher une réalité, une vérité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire de filmer les jeunes dans l'élan de leur jeunesse et d'essayer de trouver quelque chose d'ultra naturaliste dans leur jeu.
Alors du coup, j'ai plein de questions à la fois qui me viennent parmi celles que j'avais prévu de poser, mais du coup, puisque tu parles des acteurs, j'aurais aimé que tu me parles un peu de comment tu les as castés, comment ils sont arrivés, pourquoi ce choix donc, de ces deux acteurs, qui sont donc Raymond Bor et Simon Bor, donc deux frères dans la vraie vie. Est-ce qu'ils correspondent à l'idée que tu t'en faisais à l'écriture, ou pas forcément?
C'est un casting en fait où moi j'avais aucun critère physique ou quoi que ce soit. C'est un casting qu'on a fait le plus ouvert possible. Du coup, on a rencontré beaucoup de jeunes. Et moi j'avais pas imaginé trouver des frères parce que je m'étais dit c'est déjà tellement compliqué de trouver une personne qui nous plaît, deux personnes déjà qui ne se connaissent pas mais qui nous plaisent. J'avais jamais imaginé trouver deux personnes, deux frères qui me plaisent énormément. C'est vrai que quand je les ai trouvés, il y a tout de suite eu déjà de voir deux frères ensemble, de se dire de la manière qu'ils ont d'être ensemble, de se toucher, de rigoler, cette complicité, ça va être compliqué à tricher. Mais aussi et surtout je me souviens qu'ils me faisaient rire, quoi. C'est-à-dire il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup chez eux dans leur humour, dans leur truc, et surtout il y avait la manière de, en fait, leur corps, leur agilité, tout ça, et eux, c'est des sportifs de haut niveau. Ouais. Du coup, ça a amené quelque chose, et ça, c'était pas dans le scénario. Il y avait un rapport au corps dans le scénario, vu que c'était deux personnages qui se touchaient beaucoup, qui avaient ce rapport physique, mais par contre, il n'y avait pas le côté sportif. Et du coup, ça, c'est eux qui l'amènent totalement, et moi, je réécris pour eux, et je change mon film, là, pour le coup, pour l'adapter et le rendre plus proche d'eux.
Ah, ça c'est intéressant parce que c'était une des questions que j'avais justement, si cette question-là du sport était déjà dans le scénario, donc tu m'as répondu. Mais quelque chose qui va bien du coup avec la façon dont les corps, dont tu filmes le mouvement des corps, c'est aussi comment tu l'accompagnes avec le mouvement de caméra, avec ce cadrage très, très particulier, tu fais beaucoup de plans longs, voire des plans séquences, des plans du coup qui passent de... Enfin, tu tournes mais aussi beaucoup autour des personnages, ça me fait penser aussi un peu, c'est ce que fait Kechiche aussi un petit peu dans ses films. Donc c'est, je trouve ça vachement intéressant de voir la façon dont t'as retranscrit ça, comment cette manière de filmer du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mis en place dans tes courts-métrages, qui était déjà là avant, comment t'abordes le cadrage, comment tu as abordé le cadrage?
C'est une esthétique en tout cas que j'avais déjà dès mes courts-métrages, mais en tout cas d'un cinéma et des cadres qui prennent le temps aussi. Je voulais que ça soit un film aussi contemplatif de cette jeunesse. C'est-à-dire qu'eux, ils bougent beaucoup. Par exemple, ils font leurs mouvements sportifs, ils se déplacent beaucoup dans le cadre et tout. Mais c'est un cadre finalement qui est assez lent et qui les suit lentement. Il y a ce regard qui les contemple, qui tourne autour sur des rails, des choses comme ça. Et je voulais que le mouvement de la caméra et son indépendance aussi par rapport à eux. C'est-à-dire que c'est une caméra qui va plus lentement, qui observe les choses plus lentement, qui peut aussi décadrer les personnages, les récupérer. C'est des choses qui me plaisent. Et après, c'est-à-dire que dès l'écriture, j'ai des idées assez précises de plans, de ce que je veux mettre en scène. Et quand on arrive sur le tournage, il n'y a aucun plan qui est laissé au hasard. Tout est très millimétré et pensé.
D'accord.
Est-ce que c'est pareil aussi avec les dialogues, par exemple? Est-ce que c'est tu veux être dans la maîtrise par rapport à ça? Est-ce que tu laisses place à une forme d'improvisation, peut-être plutôt dans les répétitions?
Oui, c'est ça. Ouais. En fait, il y a de l'improvisation pendant les répétitions beaucoup. Et une fois que j'ai réécrit et que j'ai adapté pour eux, que je me suis servi de toutes ces impros des répètes, j'aime bien quadriller ensuite et que les dialogues soient très précis. Mais après, quand c'est bossé à fond, c'est-à-dire que tout le monde connaît exactement ces dialogues, pour moi, c'est là où on peut un petit peu improviser. Mais il faut que pour ça qu'il y a un boulot de tout connaître avant. Ouais.
Ouais. Okay. Juste un truc que j'avais oublié par rapport à un des deux acteurs, c'est que tu n'en fais pas du tout un sujet dans le film. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est la maladie de l'alopécie, du coup, un des acteurs dans la vraie vie aussi. Bon, pour le coup, j'ai pas spécialement de questions, c'était juste pour rebondir là-dessus. Je trouvais ça intéressant de ne pas en faire un sujet. Je pense que du coup, c'était pas là, de l'écriture, mais c'est quelque chose que tu...
Oui, c'est ça. Oui, ça arrive avec lui. J'aime bien, en tout cas, trouver des personnes qui amènent aussi leurs histoires. En fait, c'est-à-dire qu'il a, cette particularité physique, cette maladie, et du coup, ça amène quelque chose de lui dans le film. Mais voilà, sans que ça soit un sujet, mais on peut dire aussi pour Maïra, qui joue Cassandre, qui a une fente labio-palatine, et voilà, on n'en parle pas dans le film, elle est comme ça, et c'est tout.
Ouais. Bah, ça fait partie, c'est ce qui est intéressant aussi. Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est à la fois le travail sur la lumière et sur les couleurs. Est-ce que tu peux me parler de comment tu as abordé le trait sur les couleurs, ces couleurs très saturées, et puis en même temps cette lumière omniprésente, voilà, peut-être... Ouais. T'as la chef opératrice qui est Marine Atlan.
Ouais. Bah, c'est vrai que moi j'avais des envies d'une image très marquée dès le début, une image qui agrippe le regard comme ça, et de trouver toujours l'éclat, c'est-à-dire le soleil, et voilà, une image... Une image presque brûlée parfois, une image qui vit, et de ne pas hésiter à y aller très fort dans la saturation, dans les contrastes, dans les couleurs. Parce qu'en fait, je voulais qu'il y ait un peu quelque chose de la peinture, d'une sorte de fresque, quoi. De me dire, je vais raconter cette histoire, mais je vais le raconter de manière héroïque. Je vais essayer de les magnifier par la mise en scène. Et pour moi, ça passe par l'image, par les couleurs, ce genre de choses. Du coup, voilà, c'était un peu toutes ces intentions que j'avais. Et ensuite, c'est toutes les discussions avec Marine qui ont amené de ne pas avoir peur, c'est-à-dire de ne pas fermer les choses, de ne pas les restreindre, et au contraire, d'oser y aller et de penser par exemple, Marine, elle a imaginé toute une image voilà, qui vit, c'est-à-dire une image avec du grain, par exemple, ce genre de choses. On allait chercher des optiques. Le film, il est en scope, avec des optiques qui amènent aussi des flous, des déformations qui me plaisaient dans cette idée d'image qui vit. Quoi.
Voilà. C'est vrai qu'il y a du grain dans l'image, et c'est vrai qu'il y a un côté presque, enfin, je sais pas comment dire, mais comme de la peinture un peu, comme de la... Ouais, et justement, c'est ce que j'avais bien aimé dans le film. Puisqu'on parle, je parle aussi de la lumière et du soleil, t'as tourné du côté de Royan, dans le sud-ouest. Pourquoi avoir tourné là-bas? Est-ce que c'était une envie dès l'écriture?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, dès l'écriture, je pars en écrivant sur... J'écris toujours pour des lieux que je connais, en fait. Et là, pour le coup, j'avais écrit pour la ville de Royan, qui est la ville où j'ai passé tous les étés de ma vie avec mon petit frère. Et il y avait l'idée, voilà, d'écrire pour des lieux que je connais. C'est-à-dire tous les lieux qu'on voit à l'écran, c'est des lieux où j'ai passé du temps, où il y a des souvenirs personnels dedans. Et ça, c'est important pour moi.
Et bien justement, par rapport à ça, ça me pensait à cette question qu'une spectatrice a posée après la projection la dernière fois. C'était par rapport à la masculinité. Elle disait qu'elle avait beaucoup aimé le film, mais qu'elle trouvait que le film était assez hétéronormé.
Ouais.
Et j'étais pas d'accord avec ça. Et je pense que toi non plus, puisque tu as répondu que c'était... au contraire, tu avais voulu justement questionner cette masculinité qui peut être violente, très dominante et tout, mais qui justement n'est pas montrée comme tu n'es pas en train de glorifier le fait. Tu n'as pas voulu glorifier ça forcément. Donc j'aurais aimé que tu reviennes sur cet aspect-là. Si t'as...
Ouais. Bah, le truc, c'est que c'est un film qui parle de la masculinité, c'est-à-dire c'est un sujet du film, quoi, de garçons, de garçons violents, de garçons qui se font du mal, des garçons qui... Voilà, de montrer des hommes qui font du mal avec leur corps, mais aussi qui prennent de la place. Voilà, il y a plein de choses comme ça, de montrer aussi une jeunesse. C'est-à-dire que moi, je me dis pas je vais faire un film hétéronormé, je me dis je vais faire un film en montrant les jeunes qui sont autour de moi et que je connais.
C'est une réalité, en plus.
Voilà, c'est ça. Du coup, il y a un départ très documentaire, quoi, là-dessus, très réaliste pour moi. Et ensuite, ça parle de ça. Quand je dis ça parle de ça, c'est que c'est est mis en scène dans le film. C'est-à-dire que leur virilité, leur masculinité est mise en scène. Et aussi, voilà, c'est un film quand même qui on peut dire, est hétéronormé, mais d'un côté qui filme des corps masculins de manière sensuelle. C'est-à-dire, c'est l'idée aussi du film, de voilà, que c'est pas le corps des filles qu'on voit beaucoup et qu'on a énormément vu au cinéma, mais c'est un film qui va s'intéresser au corps des hommes à ce niveau-là.
Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que on voit souvent ça, on voit souvent des corps de femmes filmés comme finalement de cette façon, et là c'est l'inverse en fait. Enfin, on a beaucoup de corps masculins. Enfin, de façon générale, le film est très une dimension très corporelle, très charnelle et tout. Voilà, et du coup c'est un point super intéressant. Je trouvais ça intéressant justement de revenir sur ça. Il y a un truc aussi par rapport au corps, c'est cette lumière qui traverse le corps de
Tony.
Le nom des personnages, ouais, le nom des acteurs en tête. De Tony, pardon. Ouais. Qui traverse le corps de Tony à un moment particulier du film que j'essaie de pas trop parler, de pas trop révéler tout ce qui se passe, mais je voulais aborder comment tu as travaillé ces effets-là, parce que je trouve que c'est très intéressant que ce soit des effets très subtils et pas du tout. C'est ce que tu le disais un peu après l'avant-première, tu as parlé de ça, j'aurais aimé que tu reviennes sur ça.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait. C'était toute l'idée, c'est des effets voilà, qui sont à la fois souvent des effets spéciaux, mais aussi mélangés beaucoup à des effets de plateau. C'est-à-dire dès le début, on cherchait une sorte de lumière qui peut incarner ça et qui s'est jouée par des choses très concrètes, c'est-à-dire travailler sur des miroirs, travailler sur des choses comme ça pour refléter cette lumière et créer cette dimension un peu fantastique, un peu mythologique qui se dégage aussi du personnage et qui était au départ guidée par la lumière dorée. Il y avait quelque chose dans cette lumière dorée, comme un soleil qui brille un petit peu en lui. Et ça a été le point de départ. Il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là, parce que pour moi, ces effets, cette lumière qui se dégage de son corps racontait aussi quelque chose aussi de sa fatalité, quoi, de quelque chose de sa fin. Et je trouvais qu'il y avait une poésie en fait là-dedans, même si on l'intellectualise pas totalement pendant le film. Mais je pense qu'il y a une mélancolie, une émotion qui peut se dégager de ces effets.
morceaux, plusieurs morceaux de styles différents, que tu disais aimer tous à égalité quand t'en parlais dans la fin. C'était une volonté. Comment c'est venu? Comment t'as travaillé? Comment tu as abordé cet aspect-là?
Bah du coup, ça vient, encore une fois, assez vite dans l'écriture, vu que quand j'écris, je me fais des playlists un peu de musique, et où du coup, il y a à peu près toutes les musiques qu'on entend dans le film qui sont déjà là dès l'écriture, où j'imagine déjà un peu les time codes, de me dire, ah là, je vais prendre tel moment de cette musique, tel moment. Du coup, à ce niveau-là, c'est assez, assez précis. Après, voilà, il y a cette envie d'une mixité dans les genres, mais surtout, voilà, pas d'échelle dans ce qui est le mieux, c'est-à-dire que pas de musique plus importante que l'autre, et surtout une musique qui peut apparaître beaucoup pendant 10 minutes de film. On va entendre 3 chansons et après 20 minutes on peut y avoir du silence. Ça, c'est des choses aussi qui me plaisent, ouais, de jouer sur des contrastes et de pas avoir par exemple de thème vraiment musical, c'est-à-dire de la musique qui accompagne tout le temps les personnages et des trucs comme ça. J'aime bien aussi ça briser aussi les trucs de, en fait on sait jamais vraiment quand est-ce que va arriver la musique et de quelle manière elle va arriver, et ça c'est quelque chose qui me plaît, ouais.
Des fois, elle s'arrête brutalement, comme à un moment. Je crois que c'est cette musique. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est une musique un peu, on dirait un peu un truc Cold Wave, post-punk.
Ouais, un petit peu.
Avec cette scène où il se met à danser et tout. Je me demandais s'il n'y avait pas eu un peu d'improvisation à ce moment-là.
Sur la danse dans la chambre. Mais d'ailleurs, oui, il y a un truc un peu. J'avais choisi cette musique parce que ça me faisait un peu penser aussi à Joy Division. Ouais, tu vois, moi, j'adore Joy Division. Trop bien, tu vois. Et il y a aussi tout le truc avec Ian Curtis et tout. Et ils ont fait une chanson qui s'appelle Cérémonie.
C'est un morceau que j'ai écouté. J'ai pensé à ce morceau quand j'ai vu le titre du film. Souvent quand je vais voir des films, je viens écouter des musiques qui me font penser au film après. Et c'est un des morceaux que j'ai écouté
Et il y a eu un seul. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un seul Ian Curtis. Il l'a enregistré une seule fois et après il est mort.
Ouais,
et du coup, après, ça a été repris par New Order qui en a fait une version, mais une version live de Ian Curtis qui est très très belle. Ouais.
En fait, il y a 3 versions avec la voix d'Ian Curtis, et sur les 3 versions, on n'a pas la voix de Ian Curtis en entier. Soit elle est étouffée, soit on entend un seul couplet et après il retombe dans le. On l'entend plus. Et il me semble que ça, c'est une fois pendant des répétitions. Une fois avant un concert et une fois pendant le concert.
C'est ça.
En fait, donc Ian Curtis, on l'entend que sur un seul couplet. C'est-à-dire qu'on a sa voix que sur un couplet, on n'aura jamais le. Et je trouve que c'est un truc trop facile avec cette chanson.
Mais ce qui est drôle en plus, c'est que du coup, ça faisait vachement sens, mais ça, je m'en suis rendu compte alors qu'il y avait déjà le titre et tout, tu vois. Symboliquement, c'est super fort. Mais c'est venu après. Enfin, j'ai lu cette histoire après.
Après avoir choisi le titre.
C'est ça. No mercy, strong. Heaven knows it's got to be. It's my love to do. All I can breathe. Picture me. It's endless time. What you mean? What you forever? What you c'est fou, ça fait sens. Et à la base, je m'étais dit, il faut que ça soit la musique de fin du générique. Après, je crois que les droits pour Joy Division, je crois que c'était 200 000 euros juste pour mettre la musique. Du coup, ça s'est même pas posé trop comme question.
J'imagine que c'est compliqué au niveau des droits musicaux.
Tous les trucs comme ça, à part si t'es une série Netflix ou un film de Scorsese ou de Tarantino, c'est chaud de te payer des droits comme ça, quoi.
Oui, puis je pense qu'il y a même certains groupes, même pour des grosses productions, je crois que les Beatles, par exemple, c'est très compliqué, ce genre d'artiste, mais c'est vrai que ça aurait été un très bon choix, je trouve. mais c'est marrant quand on parle, parce que j'y ai pensé justement à cette chanson.
Trop drôle, Et on parlait moi j'aime bien, c'est vrai que de couper aussi la musique, de faire des coupes assez abruptes dans le. Dans les films, ça me plaît parce que je me dis toujours, il y a aussi une facilité toujours avec la musique de... Tu peux, c'est-à-dire des fois, le spectateur, il est super bien et tu pourrais laisser 5 minutes la musique, bien sûr, là, c'est magnifique et tout. Mais j'ai toujours peur de cette facilité d'amener l'émotion comme ça. Du coup, j'aime bien aussi créer une petite frustration et de lui dire... tu ne seras jamais totalement à l'aise. Tu ne vas jamais être trop confortable sur ton siège. Et ça me plaît
c'est
bien.
C'est intéressant. C'est un choix que tu fais au montage, du coup, de couper la musique comme
c'est
ça.
Au montage, tu testes beaucoup de choses, quoi. De savoir jusqu'où tu la donnes, jusqu'où tu... Et de la manière que tu vas la couper. Moi, j'aime bien ces coupes un peu, parce que je me dis, ah ouais, t'es un peu secoué sur ton siège et te dire, merde, où est-ce qu'il m'emmène, pourquoi il fait ça. Ça me plaît.
Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, le montage, tu participes. C'est toi qui le... J'ai pas bien vu dans le générique, c'était toi qui le faisais.
Non, il y a un monteur, là, sur ce film. Moi, j'avais beaucoup monté mes courts-métrages, mais sur ce film-là, il y a un monteur. Ouais. Après, j'avais fait une première version du film aussi pour me rendre compte de parce que j'avais besoin de tester des coupes, de tester des choses et d'imaginer un peu, de poser le film comme je l'avais imaginé. Du coup, j'ai fait une première version de montage qui faisait 2h50 et qui était horrible. Mais j'avais besoin de faire ça pour me rendre compte que... Pour pas être frustré ensuite de me dire « je l'ai fait, j'ai tenté ».
Ok, je comprends. Mais après, c'est compliqué de pas monter ces projets. Enfin, ça va être compliqué de déléguer.
Après, on est obligé. Dans le sens où tu fais pas tout seul. Et en plus, c'est génial de trouver les gens qui t'as confiance, qui vont t'accompagner et tout.
Ouais, bien sûr. Il y a un autre processus d'écriture, le premier processus d'écriture du film que tu as fait en collaboration avec Léa Rich.
Ouais, c'est ça.
Ça s'est passé comment? Dans quelle mesure? Enfin, je sais pas dans quelle. Oui, comment tu travailles l'écriture? Comment vous avez travaillé l'écriture du coup à deux?
D'abord, j'avais écrit un traitement tout seul du film, et après, on s'est mis à écrire ensemble d'après ce traitement, et c'était une écriture tous les deux ensemble tout le temps. Et voilà, moi j'ai écrit avec Léa parce que je la connaissais personnellement, pas parce qu'elle n'était pas scénariste ou quoi.
J'ai cherché de voir si elle avait fait d'autres.
Non, c'était la première fois qu'elle travaillait sur un film, mais voilà, c'est cette idée aussi de travailler avec des gens en qui j'ai confiance et que je connais. C'est pour ça que j'ai proposé à Léa qu'on écrive ensemble aussi. Et c'est ce que j'essaie de faire au maximum sur mes films, de trouver les gens en qui je vais avoir confiance, avec qui je vais me sentir bien. Plus que par leur expérience, qu'ils aient fait 50 films ou zéro, finalement, ça change pas grand chose pour moi.
Ouais, c'est aussi une question. C'est aussi une question de lien. C'est un peu comme avec les acteurs finalement. Quand tu me disais,
exactement.
Il faut que le courant passe bien, qu'il y ait quelque chose. C'est pas uniquement une question de. Enfin voilà, c'est aussi une question humaine, quoi.
Oui, totalement. C'est surtout une question humaine, Et après, moi, j'ai beaucoup confiance dans le travail. C'est-à-dire que tu vois, je peux prendre des acteurs qui ont jamais été devant une caméra, mais je suis sûr que si on travaille, ils vont y arriver.
Ce qui était le cas de Raymond et Simon.
C'est ça, qui avait jamais joué et que finalement on a bossé comme des fous et à la fin ils savaient jouer.
Ils jouent très bien d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai vu le petit reportage combiné là où ils suivent les deux à Cannes et ils sont complètement. Et ils sont étonnés partout, ils sont ils ont l'impression de ne pas être dans leur monde et tout. Et pourtant, ils sont très bons comme acteurs.
Ils sont épiques dans le reportage.
Parce qu'il est ressorti du coup, il a été repartagé il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais il date du moment où.
Oui, c'est ça, il y a un an quand on était à Cannes, ils étaient suivis par Combini.
Et justement, cette présentation de film à Cannes, ça s'est passé. Comment tu l'as vécu?
C'est magnifique pour le film et tout. Après, c'est vrai que quand on arrive, on est très fatigué déjà psychologiquement par les années de travail qu'on vient de finir notre film. Voilà, il y a une certaine fragilité et c'est dur. On est très sensible, très à fleur de peau. Et il y a surtout beaucoup d'émotions de montrer le film pour la première fois, que les acteurs le découvrent. Voilà, il y a beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Mais ensuite, Cannes en soi, c'est un milieu, c'est quand même assez violent. C'est une grosse machine. Toi, t'es là avec ton petit film au milieu, c'est super. Mais il y a le côté quand même grosse machine cannoise. Et encore, moi, j'étais à la semaine de la critique, c'est-à-dire ultra bien entouré. C'est-à-dire que les gens de la semaine, ils sont trop bien. Il y a un truc, petite famille. C'est cool.
C'est peut-être moins... Je sais pas si c'est moins impressionnant, mais en tout cas, c'est différent encore de la sélection officielle. Ça va être encore plus impressionnant d'être dans le...
Je pense qu'il y a une bienveillance quand t'es à la semaine et tout. Sélection officielle, je pense qu'il n'y a pas de pitié. Il y a un truc plus...
Il y a un truc un peu... je sais que cette année, il y a un seul premier film. Ce qui est déjà très rare, je crois. Mais je me dis, ouais, ça peut être compliqué à gérer.
Faut s'accrocher, ouais, je pense. Faut...
Par rapport à l'écriture, il me semble que tu as participé à la résidence Sophie de Georges.
Ouais, c'est ça.
Et
ouais.
Ça s'est passé comment, du coup?
Bah écoute, c'était pas mal. C'était surtout cool de rencontrer des intervenants, des gens qui écrivent. Et ça faisait un cadre pour écrire. Après, moi, en soi, je suis... voilà, c'est pas dans les résidences que j'écris le plus. J'aime bien penser bien mon film, me le construire un peu dans la tête. D'accord. Et quand je me mets devant l'ordinateur pour écrire, c'est que j'ai vraiment des trucs à écrire. Okay. Les résidences, tu dois un peu écrire tous les jours et tout, et moi j'ai du mal à me forcer, quoi.
Parce que, mais du coup, le film a beaucoup a évolué, enfin, pardon, le scénario... ça a apporté quelque chose quand même.
Oui, parce que t'as plein de retours, tu t'en discutes avec des gens et tout, du coup forcément ça apporte des choses. Mais oui, le film a énormément évolué à chaque étape de toute façon.
D'accord. Et là du coup le film maintenant il est distribué par The Jokers,
yes.
Qui est un très bon distributeur de films, qui essaie justement de distribuer un peu les mêmes, enfin un certain type de cinéma fantastique, de genre en sens large, français, et pas que français d'ailleurs. Est-ce que c'est... j'aurais aimé te demander justement si t'as... si tu as un peu... est-ce que tu as conscience de t'inscrire dans un espèce de courant, un certain type de cinéma français, ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose qui t'intéresse particulièrement, comment tu vois ça en fait, cette inscription là-dedans et... Voilà.
Bah en fait moi c'est vrai que quand je fais les films, quand je les pense et tout, je pense pas du tout à ça. Mais c'est vrai que je remarque qu'on me le dit, en tout cas qu'il y a un truc de génération, de choses. Après j'ai l'impression que oui, il y a plein de films en tout cas, il y a quelques films qui sortent où il y a du genre de jeunes cinéastes. Du coup il y a tendance à réunir les films, ce qui peut être super parce que ça donne une force et que voilà, c'est bien. Après moi je me dis à part le fait qu'il y ait des éléments fantastiques de genre dans ces films, les films n'ont rien à voir. Oui, du coup, c'est vrai qu'on les rapproche pour faire des mouvements, pour faire des choses. Mais voilà, moi, quand j'écris un film, je me dis pas « Ah, je vais faire un film de genre ». Je me dis « Je vais faire mon film ». Et voilà.
Ouais, j'imagine que t'as pas envie d'être enfermé dans un truc particulier.
Non, parce que pour moi, ça sert à rien. C'est-à-dire cette idée de mettre des films dans des cases, de dire tel film... voilà, de films dans des cases, j'y crois pas trop. Moi, je me dis, il faut faire les meilleurs films, et c'est ça le plus important. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une génération, là. Après, je pense que ça vient de choses très simples, c'est-à-dire les films avec lesquels on a grandi aussi, tu vois.
Oui, il y a un truc...
mes cinéastes préférés, quand j'étais jeune, c'était Tim Burton, tu vois, Kubrick. Ouais. Du coup, il y avait un truc, voilà, avec des
films...
Miyazaki, voilà, tu grandis en regardant des films de Miyazaki, et même si tu vois plus loin, E.T., Harry Potter, tu vois, il y a quand même plein de choses qui font que les trucs que tu as en grandissant, j'imagine que je suis pas le seul quand même à avoir toutes ces références ultra connues. Du coup, quand tu arrives, tu peux faire des films, tu as envie de mettre des trucs comme ça aussi dedans.
Ouais, tout à fait. Ouais, et puis l'essentiel après, c'est de pouvoir le digérer et en faire quelque chose qui est personnel, je trouve est le cas de ton film, du coup. Enfin, personnel, je sais pas dans quelle mesure, parce qu'on se connaît pas. Personnellement, mais en tout cas qui semble avoir une singularité, quoi.
Oui.
Par rapport au titre du film, donc nos cérémonies, dans la cérémonie, il y a aussi la notion, enfin il y a quelque part cette notion de rituel, de rite. J'aurais aimé savoir si tu as des rituels particuliers dans ton travail, dans ta façon d'aborder la création, est-ce que tu es, ou dans la vie en général.
Ouais.
Voilà.
Bah oui, j'ai des rituels, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les rituels qu'on pourrait... dont on pourrait en amener par ma création, c'est ce que je me suis construit en fait de film en film, c'est-à-dire de savoir, c'est un rituel qui va avec une méthode, c'est-à-dire de construire aussi sa méthode pour faire un film, du coup qui passe par du coup ce travail avec les non-professionnels, qui passe par ce travail sur le découpage, sur plein de choses, et sur je dirais que ce serait ça un peu tous les rituels que j'ai mis en place autour d'un film. Et il y a aussi des rituels qui me plaisent, qui sont ceux de des rituels par rapport au soleil, par exemple. Okay. Le fait de faire des films guidés par le soleil, ça c'est un truc qui revient à chaque film et qui me plaît beaucoup, quoi, de suivre cette météo, de suivre les mouvements du soleil, de chercher toujours cet éclat, cette grâce dans les films, qui sont devenus une sorte de rituel de film en film.
Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, ça me fait penser, puisque tu parlais de non-professionnel, j'aimerais rajouter une question sur le travail avec les enfants, parce que j'en ai pas parlé. Je sais pas comment ils s'appellent, mais je les citerai certainement. Je trouve qu'ils sont super aussi dans le film, parce qu'on en a pas beaucoup parlé. On parle des deux acteurs, des jeunes adultes, mais pas trop des enfants, et je trouve qu'ils sont super. Je sais pas si c'était difficile pour toi de travailler avec des enfants. Comment ça s'est passé, voilà.
Bah, du coup, ils s'appellent Grégory et Benjamin Lu, qui sont frères aussi. Et oui, c'est vrai qu'on en parle souvent moins parce que voilà, c'est le début du film et après on oublie un petit peu.
Ouais,
mais
c'est
quand
même une partie.
C'est une grosse partie du film et eux ils sont incroyables. Moi j'adore travailler avec des enfants, avec des jeunes, c'est quelque chose qui me plaît. Après là, j'ai eu la chance aussi d'être accompagné par une directrice de casting incroyable sur ce film qui s'appelle Alicia Cado, qui avait déjà travaillé sur mes précédents films et elle qui a fait aussi tout le coaching pour les enfants, c'est-à-dire qui a géré les enfants, qui les a entraînés, qui les a fait jouer. Moi, j'étais là aux grosses répétitions, on travaillait ensemble sur les gros trucs, mais elle a fait un travail aussi du quotidien avec eux, et c'était super intéressant, parce que quand tu prends deux petits frères, deux enfants qui sont frères, comme ça, deux petits frères, et t'as un truc très, très marrant, c'est qu'ils vont tout le temps se chamailler, tout le temps s'embrouiller, ou se faire des câlins. Il y a un truc très physique, encore plus que chez les grands. Du coup, il fallait réussir à capturer ça, et en même temps, faire un texte aussi très écrit à l'intérieur, tout en gardant le naturel de leur relation. Et ça, c'était un travail un peu d'équilibriste, un peu rigolo à faire. Enfin, rigolo sur le coup, c'est une pression, mais je veux dire, ça a amené plein de choses super belles. Ouais. Et je suis très content, parce que quand tu les vois dans le film, il y a presque un truc de... En fait, ils jouent pas... Il y a un truc presque à l'américaine, je trouve, de voir des enfants dans des films américains qui jouent comme ça, quoi. Ils sont parfaits, quoi, je trouve.
Mais je trouve aussi qu'ils sont très bien. Et puis la petite fille aussi, qui joue le rôle de
Cassandre. De Cassandre, ouais.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi, voilà, avec cette partie donc, qui est très importante, et notamment le premier plan du film avec ses costumes. Je ne sais pas du tout exactement ce que c'est. Mais voilà, justement, c'est une partie importante, intéressante, et notamment ces premières images qui sont vraiment très... très belle et très marquante. Je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire particulièrement.
Bah, si, moi je me disais d'ouvrir le film sur ce combat originel. Il y avait quelque chose de la tragédie, quelque chose de mythologique, de commencer par ça, par le combat. Et c'est-à-dire dans cette scène, il y a déjà tout le film. Il y a ce truc de ces deux frères qui s'affrontent, d'un qui prend le dessus, qui va tuer l'autre. Voilà, il y avait déjà plein de choses, quoi. Du coup, je me disais, ça va être beau d'inscrire ça et de pousser les curseurs très haut. C'est-à-dire qu'ils ont même des costumes, des armures, quoi. Presque un truc de cérémonie poussé jusqu'au bout. Et leurs armures, il y a déjà les couleurs qui vont les accompagner pendant tout le film. C'est-à-dire chacun a son code couleur très marqué. C'est sur une plage. Et en même temps, il y a tout le fantastique qui est déjà là dès le début du film. C'est-à-dire dès les deux premiers plans, si on réfléchit, parce que les deux premiers plans du film, c'est deux très gros plans sur le visage. Mais si on regarde, ils ont tous les deux la mer dans le fond du plan. Okay. Et en fait, ça, ce n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas... s'ils sont face à face, c'est impossible. Et ça, à moins d'être sur une toute petite île au milieu de la mer comme ça, tu ne peux pas avoir la mer dans les deux plans. Et je me disais, dès les deux premiers plans du film, c'est deux visages qui s'affrontent, et finalement, les règles logiques et réalistes ne sont plus là. Et on est déjà dans le fantastique. Et après, au moment où ils baissent l'épée, la mer devient rouge, et le titre apparaît dessus, quoi.
Le
rouge éclatant, et le titre apparaît avec une sorte de lumière dorée, et qui est en fait exactement le même effet qu'on va retrouver sur tout le film, sur toutes les apparitions fantastiques, et en fait, le titre est déjà habité par ça.
Et c'est super intéressant, parce que j'avais pas du tout vu ça, effectivement, ce côté, le truc avec la mer dans le fond, j'avais pas interprété ça tout ça, mais après c'est ton film, donc forcément...
Oui, voilà, moi j'ai un peu réfléchi, mais...
Mais oui, c'est super intéressant. Écoute, merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Voilà, c'était Simon Ritt à propos de son film Nos Cérémonies, que je vous conseille vivement de regarder si vous ne le connaissez pas, et de découvrir son travail. Merci à lui pour le temps qu'il m'a accordé pour cette interview. C'est tout pour aujourd'hui, c'était donc la dernière piste. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à vous de nous avoir écoutés, et bonne journée à tous sur Radio Campus.